Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Michel Audette qui vient nous parler des peuples autochtones et la santé mentale. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre nous amène son sujet, distinguer le vrai du faux. Notre collaborateur Jean-François Plouf est aussi des nôtres en début de deuxième demi. Il nous parle de pandémie et respect des droits. C'est sa deuxième chronique sur le sujet. Alors tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence en chanson avec Plein de bisous. La chanson est de Louis Hoffman avec Mélina Leblanc. Bienvenue à Folie douce.
Branché sur Folie douce, soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle.
J'ai le plaisir d'accueillir mon invité, on va parler ensemble d'un sujet assez important, en fait, c'est peuples autochtones et santé mentale, c'est Michel Audette. Merci d'être avec nous, Madame Audette.
Bien, merci à vous de cette belle invitation.
C'est intéressant, ça fait des années qu'on veut parler à quelqu'un qui s'y connaît, puis je pense qu'on a eu vraiment la bonne personne maintenant, alors on est vraiment intéressé de vous entendre là-dessus. Avant de commencer sur cette question-là, j'aimerais d'abord voir, tu sais, souvent dans la société, on a toujours l'impression qu'on marche un peu sur des œufs, puis on ne sait pas trop comment nommer les peuples autochtones. Quelles sont les bonnes façons de nommer, parce qu'il y a plusieurs peuples, c'est pas un seul peuple en plus, mais comment on pourrait voir ça, comment on pourrait informer la population à ce sujet-là?
Bien, en ce moment, ce qui va être respecté ou certains vont dire toléré, là, pour ma part, c'est respectueux là, quand les gens vont dire peuple autochtone. Donc là, on va parler des Premières Nations, des Inuits et du peuple métis. Si on parle d'autochtones, bon, bien, bientôt, je pense que ça va être un mot qui va être désuet, qui ne sera plus accepté, mais ça, c'est peut-être dans deux, trois générations, qui sait. Et mais qui est important, il ne faut plus dire indien, il ne faut plus dire amérindien parce que c'est pas du tout qui nous sommes. Alors, j'aime bien votre question.
Et pourtant, il y a encore la loi sur les Indiens au Canada. Tu sais, à chaque fois que j'entends ça, ça me fait friser les oreilles, là.
Bon, ben moi, j'ai les cheveux raides, ben c'est les cheveux qui frisent, là.
Ouais.
Et justement, c'est archaïque parce qu'avant, c'était l'acte pour l'émancipation graduelle des sauvages,
ouais.
La loi des sauvages et maintenant la loi sur les Indiens. Mais nos gouvernements qui ont été là au pouvoir à chaque fois vont dire Première Nation et peuple autochtone, mais c'est pour être correct politiquement. J'essaie de traduire
oui.
en français, là, mais il faudrait que ça change carrément. Là, ça.
Oui, c'est ça. Donc, finalement, peuple autochtone, je pense qu'on est safe, on est respectueux, puis ça dit
oui.
ce que ça a à dire.
Oui, en effet.
J'ai omis de dire que, bon, vous êtes vice-rectrice à l'Université de Laval, puis vous êtes impliquée depuis longtemps, on vous voit beaucoup dans les médias, vous êtes militante, justement, au niveau des droits, parce que vous êtes, en fait, née de mère d'origine Innu et d'un père non-autochtone, n'est-ce pas?
Ma maman, elle est Innu,
oui.
Innu de la nation là, Innu, puis de la communauté de Ouachat Makmaliotenam. Mon père Gilles habite à Montréal. Je le dis toujours là, c'est le plus beau Québécois. Puis ma maman, c'est la plus belle Innu, là, une
oui.
grande dame. Alors ça va avoir fait vivre des choses dès ma naissance, là, le fait que ma mère va marier un non-indien. Dès ma naissance, on arrête en plein milieu de nulle part dans le nord du Québec, puis l'hôpital la plus proche, parce qu'on est dans un train, c'est au Labrador. Donc l'hélicoptère amène ma mère et après ça nous ramène au train le lendemain. Puis ma mère doit prendre le wagon des sauvages, alors que mon père avait le choix d'embarquer soit avec, on dit à l'époque, les Blancs ou les sauvages. Alors lui est allé du côté de ma mère, mais lui avait ce droit-là et pas ma mère. Donc en naissant, c'était ça ma première
ouais,
expérience.
Déjà une injustice finalement, là, c'est
ouais.
ça?
Oui, et puis pour l'Université Laval, c'est ça, ça me touche là, comment vous avez nommé mon poste, là, mais mon poste, c'est adjointe au vice-recteur. Donc, je vais
D'accord.
soutenir l'équipe du vice-recteur si jamais il écoute, là, tu sais.
Oui, oui, effectivement. Mais finalement, tout ça pour dire que vous êtes peut-être la meilleure personne pour nous situer, justement, nous faire comprendre la réalité des peuples autochtones et aussi de la santé mentale, parce que vous avez un peu les deux origines. Donc, ça, quelque part, ça fait une personne qui peut peut-être mieux expliquer la situation.
Ben, on est un peuple, je dirais, chez les Innu, puis bien d'autres nations là au Québec, comme partout ailleurs au Canada. Je vais avoir traversé là avec l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées, toutes les régions du Canada, dans le nord, dans le sud, la côte ouest, côte est, et ainsi de suite. Et ce qui va nous ressembler et rassembler, c'est notre sens de l'humour, notre humour peint sans rire, puis nos longs silences, nos larmes, mais aussi nos câlins ou notre désir de guérison parce que on a pris cette conscience-là individuellement et collectivement que le colonialisme va être une des sources de violence là, qui perdure. Puis après ça, ben aujourd'hui, dans un contexte contemporain, le fait qu'on m'a enlevé ma langue, ma culture, qu'on va m'avoir violée ou agressée, qu'on m'avoir enlever mon éducation autochtone pour m'imposer quelque chose qui n'est pas respectueux, je parle de la génération de ma mère et ainsi de suite, va faire des communautés poquées, communautés maganées. Et en plus, on trouve que la boisson, puis nous, ça va avoir été mon chemin à l'âge de 11 ans, 12 ans et 13 ans, que la boisson puis la drogue va être un baume rapide pour cacher peut-être 500 ans, 150 ans, je sais que j'avais pas cet âge-là, mais que je vais avoir accumulé soit dans l'ADN puis dans la culture familiale.
Oui.
C'est ma gamine. Fait que oui, la santé mentale va être encore aujourd'hui une préoccupation majeure puis un désir de se guérir individuellement et collectivement.
Comment les peuples autochtones voient la santé mentale? Tu sais, longtemps, je pense que c'est de moins en moins le cas dans la population en général. On voit ça de moins en moins honteux, si on veut, puis on en parle de plus en plus. Puis, tu sais, nous, on fait une émission depuis presque 30 ans, puis on sent une amélioration dans la parole, en fait, pour exprimer les choses. Mais chez les peuples autochtones en général, est-ce qu'on peut dire que la santé mentale est tabou encore?
Ben, c'est exactement. C'est le mot, c'est tabou. Et par contre, ma mère me disait souvent, moi, ma première tentative de suicide, j'ai 13 ans, puis après ça, 18 ans, et ensuite dans la quarantaine, en 2013. Puis ce qu'elle me disait, tu sais, le malaise, le tabou autour de tout ça, encore plus chez nos hommes, mais aussi chez nos femmes, et ainsi de suite. Mais de consommer au grand jour, puis d'être poqué, magané, puis gelé, ça, c'est comme on l'a normalisé. Alors, elle disait, puis j'aimais sa réflexion, puis j'adhère à ça aujourd'hui, où il y a eu ce déséquilibre dans lequel, pour pouvoir vivre des millénaires, tu sais, il n'y avait pas de Canada Goose, là, ici à Québec, là, au Québec, il y a quelque temps de ça, là, fait qu'on avait une relation intime avec le territoire, l'environnement, mais une réciprocité, une interdépendance avec l'autre personne qui est un homme ou une femme, un aîné ou un enfant. Alors ça, dans ce cercle-là, il y avait, si moi, ma santé mentale, spirituelle, physique, émotionnelle était maganée, ou une des sphères de ce que je vous nomme, ben on devait retrouver cet équilibre-là entre ces quatre grandes belles choses qu'on est gardien ou qu'on a reçues comme cadeau. Puis moi, en tout cas en 2013, c'est là où je me suis dit, hey boy, je pense que j'ai enlevé tout ce qui était spirituel et émotionnel pour être une superwoman, mais cacher des vieux fantômes et des vieux bobos. Puis la drogue faisait plus ou la surconsommation, fait que le suicide va être une réponse. Puis d'accepter de faire une dépression, tu sais, l'orgueil puis tout ça, et le tabou, ben il va y avoir des gens qui vont juger, mais au moins... Après, là, je me suis dit, ben ça m'appartient, mais c'est parce que j'ai été bien entourée puis j'ai accepté finalement. Alors, elle va être taboue, mais en même temps, on va avoir une belle gang là, à travers le Canada qui appelle là, le chemin rouge ou la spiritualité, qui va aller nourrir cet équilibre-là dans la santé mentale, spirituelle, émotionnelle et physique de façon naturelle, puis des fois bien organisée. Et c'est là où on se dit, aïe, ça manque, ça, à tout le monde. On n'a pas besoin d'être Innu, Atikamekw ou Mohawk. Toutes les personnes pourraient vivre cette expérience-là, là, qui est douce et respectueuse.
Est-ce qu'on peut dire que les peuples autochtones ont développé plus de problématiques, peut-être parce qu'on a dénaturé peut-être leur façon de vivre?
Ben moi c'est sûr que je vais dire oui. Là, on a un rapport en lequel on va mettre des constats qu'on n'a pas inventé, que des gens avaient déjà amené, mais c'est un rapport d'enquête. Donc là, on a des preuves à l'appui qui va démontrer qu'en effet, cette violence coloniale, ce système qui a magané et qui était calculé là, des groupes parce que c'était des sauvages, là, entre guillemets, et ainsi de suite, puis par diverses politiques et façons de faire, moi, je suis pas surprise aujourd'hui de voir des gens que j'aime être aussi maganés. Mais où je suis surprise, c'est que on va normaliser ça encore. Puis de l'autre côté, la société dominante va juger. Mais ça, c'est de l'éducation. Puis c'est pour ça qu'on se lève le matin, ben du monde, pour dire, je vais faire mon petit bout de chemin pour la pédagogie ou... l'explication ou tout simplement l'enseignement par l'observation, mais il faut vraiment aimer ça puis y croire, là.
Oui. Vous avez été militante longtemps sur les différentes questions, les différentes problématiques, mais qu'est-ce que ça prendrait? Il y a beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'on devrait améliorer pour justement améliorer la santé mentale des peuples autochtones?
Il y a plein de belles choses, en effet, vous avez raison. Puis dans sa simplicité, moi, je crois toujours que la guérison doit se faire de façon individuelle tout d'abord. Puis si moi, à Maliutenam, ou je suis à Puvubituk, ou je suis à Wemontashi ou à Kanawangé, proche de vous, puis qu'il n'y a pas dans mon réseau une approche qui va reconnaître ma culture, parce que je vais avoir des repères hein, culturels dans ma langue ou dans ma culture, ma spiritualité. Si on m'amène une approche qui est complètement je me perds, ben ça risque d'être un échec de façon individuelle. Alors, si on rend ça plus grand pour une communauté, moi, je pense que les gouvernements qui se disent partenaires et alliés avec nos nations, ben dans ce cas-là, ils devraient croire en nos modes de guérison. Ils devraient nous faire confiance. Puis de ne pas avoir juste une approche, mais d'avoir une approche multi, je dirais, différentes approches. Des gens, ça va être la thérapie, le psychologue. D'autres, ça va être apprendre la langue, de retourner en forêt. Et ainsi de suite. Alors, moi, ça va être tout ça qui va m'aider. Puis d'autres, ça va être juste une approche.
Peut-être c'est d'assurer un dialogue constant, tu sais, entre tout le monde. Je pense que c'est ça qu'on va trouver la solution, tout le monde ensemble. C'est peut-être ça, hein?
Oui, puis si on grandit toujours dans l'ignorance, puis là, pac, on va voir dans les médias une crise, une barricade, un meurtre ou une police qui a réagi ou qui a fait ci, ou tu sais, peu importe les cultures là, chez les nations autochtones versus le peuple québécois, là, exemple, on va continuer à réagir de même alors que, comme vous dites, s'il y a un dialogue, mais qui est constant, qui est organisé, qui est nourri et honoré, ben moi, on va créer plein de petits leaders québécois et autochtones qui vont faire de petites et grandes choses. Ça, j'en suis convaincue.
Oui. En terminant, il reste peu de temps, mais quelles seraient peut-être là ou les références qu'on pourrait donner aux gens, les gens qui veulent en savoir plus sur les réalités autochtones? Ça serait quoi le site web ou les références qu'on devrait consulter?
Ben il y a beaucoup, beaucoup de sites qui existent, mais juste à Montréal ou au Québec, là, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse ont fait 3 éditions de la revue Mythes et réalités. Et ça, là, c'est une petite mine d'or là, d'informations historiques et d'enjeux contemporains. Puis après ça, sur Google, tapez activités ou documentation sur les questions autochtones ou librairies autochtones et vous allez voir qu'à Québec et à Montréal, il y a plein de choses qui se fait et qui existent et des organisations qui tendent la main justement pour réconcilier ou mieux se connaître ou se dire les vraies choses, mais avoir du fun aussi, là.
Oui, ben merci, c'est excellent. Ben, je suis vraiment heureux de vous avoir reçu. C'est vraiment intéressant. Puis j'aimerais ça refaire l'expérience éventuellement. Mais merci, Michel Audette, d'avoir été des nôtres à Folie Douce.
Eh bien, merci à vous, Yamé.
Il m'en aura fallu du cran pour me rendre ici. Tous ces dommages qui m'ont saboté, ça. Je
avez des choses à dire? Joignez-vous à notre groupe Folie Douce sur Facebook. Parlons santé mentale.
Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Salut, tu nous amènes ton sujet, distinguer le vrai du faux.
Oui, et cette semaine, j'ai quelque chose de spécial.
Oui.
Parce que je vais te faire passer un test, un questionnaire.
Oh, OK.
Un questionnaire.
Un genre de quiz.
Oui, qui a été monté par un organisme à Québec qui s'appelle le Cercle Polaire.
OK.
Qui a comme rôle de soutenir les proches dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien lorsqu'ils côtoient une personne atteinte de maladie mentale. Ils offrent en fait toutes sortes de services. Il y a des services, il y a une ligne téléphonique, il y a des conférences. En tout cas, il y a toutes sortes d'aides. Je reviendrai un peu là-dessus, mais je vais y aller tout de suite avec le jeu questionnaire qu'ils ont fabriqué.
Ouais.
Et ils nous disent, en fait, ça s'appelle « Distinguer le vrai du faux ». Il nous dit, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, une personne sur quatre vivra avec un problème de santé mentale à un moment ou l'autre de sa vie. Au-delà de ces personnes, presque tous seront touchés de près ou de loin par les effets de la maladie mentale. Un membre de la famille, un ami ou un collègue de travail. Malgré ce nombre, la plupart des gens ont peu de connaissances sur la maladie mentale, si ce n'est par le biais des médias et du bouche à oreille. À cet égard, il importe d'apprendre à faire la distinction entre le mythe et la réalité, entre le vrai et le faux. Voici donc quelques exemples qui permettent d'y voir plus clair.
Est-ce que je vais gagner quelque chose?
Mais c'est justement ça que j'étais pour te dire. C'est plate parce qu'il n'y a pas de montant d'argent.
Un fromage? C'est un insight.
On va faire semblant qu'il y a beaucoup d'argent.
On va dire qu'il y a quelque chose, il y a un enjeu.
Oui. Alors, est-ce que tu es prêt?
Ben, je suis prêt.
Toutes les questions, c'est vrai ou faux.
OK.
T'es prêt?
Ouais.
Alors, pour 50 $?
Ouais.
Première question. Les maladies mentales ne peuvent pas vraiment être considérées comme de véritables pathologies.
C'est faux. Ce sont des vraies pathologies.
Effectivement. Les maladies mentales sont de véritables problèmes de santé qui ne peuvent pas être réduites à des hauts et des bas de l'existence. Ces pathologies réelles sont à l'origine de souffrances et d'invalidité. Par exemple, la maladie mentale est la principale cause d'absentéisme au travail.
C'est vrai.
Est-ce que tu veux risquer ton 50 $?
Oh oui, on fait un qui tout double. Ouais.
Il y en a un qui te double un
ça
peu
plus. Ça va coûter cher.
Deuxième question. On ne peut rien faire de significatif pour une personne souffrant de maladie mentale.
Ça, c'est faux, parce qu'on peut faire quelque chose, c'est certain.
Faux également. Les proches d'une personne souffrant de maladie mentale jouent un rôle de premier plan dans le rétablissement de celle-ci. Le soutien d'un proche, d'un ami ou d'un collègue peut faire toute la différence.
Oui, absolument.
Jusqu'à date.
Mais même si on fait un petit peu d'aide, cette aide-là peut faire toute la différence, comme tu dis. Là.
Oui.
Ça n'a pas besoin d'être gros, là, ce qu'on
oui.
fait.
Ouais. Oui. T'es deux en deux.
À date, oui.
Troisième question. Les mauvaises habiletés parentales causent parfois des maladies mentales.
Ça, c'est une question au piège, celle-là.
Les mauvaises habiletés parentales.
Je dirais que c'est faux.
C'est faux également, t'as raison. Aucun facteur à lui seul ne peut causer de maladie mentale. Les maladies mentales sont des conditions complexes qui découlent d'une combinaison de génétique, de biologie, d'environnement et d'expérience de vie. Les membres de la famille et les proches jouent un rôle important en matière de soutien et de rétablissement.
Souvent, je disais, c'est une question au piège, parce que je trouvais que des fois, c'est l'environnement familial peut devenir toxique, tu sais,
oui.
mais en même temps, c'est... Comme tel, ça, ben, c'est pas vraiment une cause.
On pourrait dire que ça peut mener à des dépressions. Par exemple, les parents abuseurs.
Oui, par exemple. Ou des gens qui donnent pas aucun amour à leurs enfants.
Ouais.
Il y a des gens très
pauvres. Ça cause des dépressions assez sévères. Même, il y en a des jeunes qui vont jusqu'au suicide.
Oui, absolument.
Mais eux autres, ils disent que aucun facteur à lui seul.
Non, c'est ça.
C'est toujours un ensemble.
Ouais. C'est ça, exactement.
Quatrième question. Les personnes atteintes de maladies mentales sont plus à risque de commettre des crimes violents.
Ça, c'est pas vrai, parce qu'on le dit souvent, c'est faux, là, parce qu'on le dit souvent dans l'émission qu'il n'y a pas plus de gens.
Tu as raison.
C'est un mythe, parce que tu sais, il y a des diabétiques qui font des crimes violents, puis il y a d'autres pathologies.
C'est fou, tu as raison. C'est que bien que les croyances populaires et la couverture médiatique de certains crimes puissent le laisser supposer, les personnes souffrant de maladies mentales ne sont pas plus enclines à commettre des crimes violents que tout autre groupe de la population. Aucune corrélation entre diagnostic psychiatrique et passage à l'acte violent n'a été scientifiquement prouvée. Question numéro 5. Les gens peuvent guérir d'une maladie mentale et sont ensuite capables de gérer leur vie.
Guérir d'une maladie mentale. Ça aussi, c'est piège.
Les gens peuvent guérir d'une maladie mentale et sont ensuite capables de gérer leur vie.
Ben, je dirais que vrai.
Tu dirais vrai? Vrai. Mais t'as raison.
Parce que, tu sais, certaines personnes disent on est souvent, tu sais, on vit notre maladie toute notre vie, là, mais c'est pas nécessairement le cas. Je pense qu'on peut en guérir.
Question numéro 6. Ce sont seulement les personnes atteintes qui ont besoin d'aide et non pas leur famille.
Ça, c'est faux aussi. Parce que les familles aussi ont besoin d'aide, mais il y a des organisations qui le font.
Oui, tu as raison. La majorité des études démontrent que le fait d'avoir un proche atteint de maladie mentale provoque des effets négatifs sur la santé physique, surtout dans le cas de la prise en charge de cette personne. Question numéro 7. La maladie mentale touche très peu les enfants.
Je dirais que très peu les enfants. Ça dépend de ce qu'on entend, mais je dirais faux. Ça touche tout le monde.
C'est faux.
Tous les âges.
Exactement, oui. Selon les études, 15% des enfants et des jeunes souffrent de troubles mentaux. Chez la majorité d'entre eux, il n'y a pas de diagnostic. Au Québec, cela équivaut à plus de 230 000 enfants et jeunes.
Ouais. Il y a même un hôpital spécialisé à Rivière-des-Prairies, justement, qui s'occupe des jeunes en bas de 18 ans.
Donc, Question numéro 8. Si je m'éloigne le moindrement de mon proche, ce sera le signe que je l'abandonne et que je n'ai plus d'intérêt pour lui.
Pas nécessairement, je dirais faux.
Faux, oui, t'as raison encore. La prise de distance n'est pas synonyme d'abandon ni de désintérêt.
Il faut lui faire savoir, parce que certaines personnes peuvent se sentir peut-être comme ça. Je pense que tu vas poursuivre, Pierre, dans la deuxième partie, c'est intéressant. Donc,
Et en train de te faire de l'argent.
Ben oui, c'est ça, je suis en train de calculer tout ça, là, distinguer le vrai du faux. On poursuivra le quiz, ainsi que les auditeurs peuvent aussi s'essayer. Donc, merci pour ça, Pierre, et on poursuit plus tard à l'émission.
La bonne santé mentale touche à tous les aspects de notre vie. Donnons maintenant la parole à nos chroniqueurs.
Je reçois à nouveau Jean-François Plouffe, chargé de dossier de communication chez Action Autonomie. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Bonjour. Tel que promis, on veut faire une deuxième partie du sujet pandémie et respect des droits. On avait parlé de plusieurs problématiques qui ont eu lieu justement à cause de cette fameuse pandémie historique des années 20. Oui, on vit les années 20, mais en 2020. Alors, ça va être un peu notre histoire qu'on va peut-être raconter dans plusieurs années, mais il y a des histoires qui sont moins drôles, dont le respect des droits, je pense.
Ben c'est ça. Pour les personnes qui sont hospitalisées en santé mentale, c'est toujours difficile de faire respecter ces droits. On est embarqué souvent dans des processus qui sont complexes, on a de la difficulté à saisir, que personne nous explique, etc. Donc, à l'année longue, c'est compliqué, c'est difficile, c'est anxiogène d'être traité équitablement par le réseau de la santé mentale. Mais durant la période de pandémie qu'on a connue, ça a été encore plus difficile. Notamment, il faut savoir que les tribunaux étaient fermés durant une certaine partie de la période, mais ils étaient fermés pour tout le monde, sauf pour les causes dites urgentes. Et les causes dites urgentes, entre autres choses, c'était les cas de garde en établissement et d'autorisation judiciaire de soins. Donc, les gens n'ont pas eu de répit en se disant, pendant la pandémie, au moins, j'aurai pas d'obligations qui vont m'être imposées par le tribunal. Non, les tribunaux ont continué de fonctionner. Mais ils ont fonctionné différemment. Ils ont fonctionné avec des visioconférences, c'est-à-dire que le juge était dans une salle, la personne restait à l'hôpital et tout ce monde-là, les médecins étaient dans une autre salle, puis l'avocat de la personne était très souvent à son bureau, etc. Ce qui fait que ça mettait une dynamique complètement différente là, pour la compréhension de ce qui se passait durant l'audience. Déjà, quand tout le monde est ensemble, c'est pas évident à suivre, mais là, quand on est tous séparés, puis que la personne n'a pas eu très souvent la possibilité même d'échanger quelques minutes avant l'audience avec son avocat, ça devient très compliqué. Et d'autant plus que la personne, elle n'est pas dans un terrain neutre comme quand elle est au palais de justice, elle est toujours dans sa chambre d'hôpital. Donc, elle est sur le terrain de l'hôpital. Donc, elle baigne dans la culture hospitalière au moment où ça se passe et ça fait déjà une différence. Et je disais qu'il y avait des difficultés de communication avec l'avocat. Normalement, normalement, on établit une espèce de petite stratégie entre l'avocat et de chacune des parties. Là, chacune des parties fait ça, mais en principe, la personne devrait pouvoir le faire avec son avocat. Mais très souvent, ça n'a pas été le cas. La personne n'avait même jamais vu son avocat au moment de l'audience. Et donc, ça complique la compréhension de l'audience et ça fait en sorte, au final, que la personne a encore moins de chances qu'à l'habitude d'obtenir gain de cause ou de faire entendre son point de vue par le tribunal. On sait par des recherches qu'on a faites dans le passé que, par exemple, pour la garde en établissement, les requêtes des établissements sont acceptées par les tribunaux au moins partiellement dans une proportion de 97%. Donc, c'est déjà extrêmement difficile de faire triompher son point dans une période normale. Mais dans ce cas-ci, ça a dû être encore plus compliqué.
Oui. Puis c'est la fameuse loi P38 dont tu nous as souvent parlé, qu'on utilisait beaucoup, je pense, contre les personnes, en fait, contre leur gré, d'une certaine façon. C'est ça. Hein?
Oui. C'est une loi qui permet de priver une personne de sa liberté quand on considère que son état mental présente un danger pour elle-même ou pour quelqu'un d'autre. On utilise ça beaucoup, notamment pour les personnes qui ont des idées suicidaires. Moi, je ne suis pas un thérapeute, puis je ne suis pas un psychiatre, puis je ne suis pas un psychologue, mais je me dis qu'une personne qui a des idées suicidaires, c'est pas nécessairement la meilleure des idées que de la priver de sa liberté, puis de lui imposer des conditions de vie extrêmement rigides, là, où on la prive de tous ses objets personnels, etc., et où on la plonge finalement dans un milieu qui n'est pas du tout le sien, et qui est un milieu qu'elle n'a pas choisi. Je ne suis pas certain que c'est très bon, ça, pour faire passer des idées suicidaires.
Ouais.
Mais bref, c'est ce qu'on pratique dans les hôpitaux à l'année longue. C'est certainement ce qu'on a continué à pratiquer durant la pandémie. Puis, c'est des expériences qui sont traumatisantes pour les personnes.
Il y a un point que tu as mentionné, Jean-François, ce que tu disais, justement, les gens étaient en visioconférence, mais à l'hôpital. Fait que j'ai comme l'impression que ça l'a vraiment, comme tu l'as dit, mais ça m'a vraiment interpellé. Les gens devaient se sentir un peu bizarres parce qu'ils ne pouvaient peut-être pas parler autant librement que s'ils auraient été dans un milieu à la cour, par exemple, ou ailleurs.
Exactement ça. Et on est en train de mettre en place, indépendamment de la pandémie, depuis quelques années, on présente comme un grand progrès le fait de faire des audiences en vidéoconférence. Ça évite de transporter la personne au palais de justice, etc. Mais ça amène ce problème-là dont on vient de parler, qui est très, très réel, qui fait que la personne, elle n'est plus dans un terrain neutre et elle n'est pas dans une relation... Déjà qu'elle n'est pas dans une relation égalitaire au niveau de la crédibilité et tout ça, mais là, on la met encore plus sur un terrain où elle est en défensive. Donc, déjà, nous, on questionne depuis plusieurs années l'idée des audiences en visioconférence, mais là, ça est devenu une pratique systématique durant la pandémie, et on craint un peu que les hôpitaux disent « Bon, ben ça a bien marché durant la pandémie, on va continuer ça à temps plein maintenant, on n'aura plus besoin de transporter les gens à l'hôpital, puis de les ramener au palais de justice, puis de les ramener à l'hôpital après, puisque de toute façon, on gagne tout le temps, qu'on va gagner du temps, mais on espère que c'est pas ça qui va se passer, puis que les gens vont pouvoir continuer d'aller comparaître au palais de justice comme n'importe quel citoyen qui est impliqué dans un litige civil.
Oui, c'est là que c'est bon, justement, le travail d'Action Autonomie, parce que quand on regarde ça dans la société, on se dit effectivement, la télémédecine a fait des progrès, ça permet à des gens de ne pas avoir à se déplacer, tout ça, mais tu as le contre-coup, là, comme tu nous expliques, là, que ça peut aussi avoir des effets néfastes. Là.
Bien, c'est ça. Et c'est toujours pour les mêmes personnes que c'est néfaste. C'est jamais néfaste pour l'hôpital, c'est jamais néfaste pour le tribunal, c'est toujours néfaste pour la personne. La personne, on lui enlève toujours des moyens de se défendre à chaque fois, pour sous prétexte d'efficacité puis de rapidité, etc. Mais à un moment donné, il faut que la justice soit rendue et qu'il y ait aussi apparence de justice. Et nous, ben effectivement, on est là pour rappeler ces idées simples-là, mais qui sont parfois un peu oubliées là, par les intervenants.
Ouais. C'est excellent.
Puis, il y a eu d'autres difficultés aussi autour des conditions d'hospitalisation. Je le disais un peu la dernière fois qu'on s'est parlé. Ouais. Quand on est en état d'urgence, on est moins porté à revendiquer des choses pour soi-même. On se dit, il faut que je sois compréhensif. Là, on est dans une situation exceptionnelle. Fait que ce qui m'arrive est probablement correct puisqu'on est dans une situation exceptionnelle. Mais on a vu qu'il y a des pratiques qui se font toujours et qui ont continué de se faire avec encore plus d'acuité, entre autres la médication, la médicamentation sans consentement, où on forçait les gens, sans leur demander leur consentement, à prendre des médicaments sous prétexte qu'ils étaient plus anxieux, etc., etc. Mais la pandémie ne justifiait pas ça du tout, là. Les droits prévus par la loi à ces services de santé et services sociaux, ils n'étaient pas suspendus par l'urgence sanitaire. Ce qui était suspendu, c'était des activités sociales, etc., puis, mais pas des choses qui ont rapport avec les conditions d'hospitalisation. Mais on a eu plusieurs témoignages de gens qui se sont fait médicamenter de force durant cette période-là, puis qui n'ont pas toujours développé le réflexe de s'en plaindre parce qu'on leur disait que c'était une situation particulière et urgente. Et donc, ça venait comme justifier une culture qui est là depuis des décennies dans le réseau de la santé mentale où on va légitimer puis justifier une forme d'autoritarisme puis de paternalisme puis une idée selon laquelle le soignant sait mieux que la personne ce qui est bon pour la personne. Et donc, ça le justifie d'agir sans le consentement de la personne. Donc, ce genre d'idée-là, la pandémie a certainement contribué à la renforcer.
Ouais.
Alors que nous, on est de ceux qui travaillent depuis très longtemps à faire en sorte de changer un peu cette façon de voir les choses.
Mais sans encore une fois, j'avais mentionné la dernière fois, mais sans les excuser, est-ce que dans la situation actuelle où c'était tellement nouveau, tout ça, que tout le monde est un peu débalancé, puis je me dis, ben les gens... ont peut-être pas trop réfléchi, ont pas eu le temps de réfléchir. Est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez quand même un peu, pas les excuser, mais en tout cas amoindrir peut-être les conditions qui sont arrivées en espérant que ça ne se reproduise pas, évidemment.
Ben, nous, notre rôle, au moins, c'est de leur faire prendre conscience qu'il y a eu des problèmes.
Ouais.
Parce que si on n'est pas là pour dire « Regardez ce qui s'est passé, il y a eu des problèmes », ben on va dire « Tout s'est bien passé, finalement, on a contrôlé les éclosions dans les milieux, etc.
Ouais. »
Donc, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu trop de gens malades de la COVID, donc c'est un succès, fait qu'on va continuer comme ça.
Demeurer critique, c'est ça. Comme tu dis, je pense que c'est très important.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, parlant d'éclosion, parce qu'il y a quand même eu des éclosions dans certains départements de psychiatrie puis dans certains hôpitaux psychiatriques, ces cas-là n'ont pas été apportés par les personnes. C'est pas parce qu'on les a laissés sortir puis qu'ils sont allés rencontrer du monde malade puis qu'ils n'ont pas respecté le 2 mètres que c'est arrivé. Parce qu'on les a enfermés dès le départ et pour de nombreuses semaines, comme je l'ai dit la dernière fois. Ce qui s'est passé, c'est que le virus, il a été transporté par des membres du personnel des hôpitaux. Et c'est pas nécessairement la faute de ces personnes-là parce que il y a eu des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, etc., des ergothérapeutes, tout ça qui, en temps normal, se promènent dans les différentes unités pour aller rencontrer des gens, puis c'est très bien comme ça. Mais ils auraient pu faire du télétravail. Et dans le réseau de la santé québécois en général, probablement, le télétravail, c'est pas quelque chose, c'était pas une pratique qui était encouragée puis qui était reconnue. C'était considéré comme une forme un peu de présentéisme, là, puis de où on travaillait moins fort en restant à la maison. On avait beaucoup de préjugés là-dessus.
Ouais, ouais.
Et donc, ça a pris plusieurs semaines pour autoriser le télétravail à ceux pour qui c'était possible. Puis ça, à ça s'est ajouté aussi en début de pandémie, au mois de mars et au mois d'avril, la pénurie de matériel de protection individuelle. Donc, les blouses, les visières, les masques, etc. Donc, il y a plein de gens qui se sont promenés pendant des jours et des jours sans aucun outil de protection, qui ont contracté la maladie et qui l'ont transmis à d'autres patients.
Et qu'il y avait beaucoup de gens asymptomatiques, ce qu'on ne savait pas au début, ça a été une révélation aussi, mais c'est ça, tout ça ensemble.
Ouais. Mais il ne faut pas penser que c'est la faute des personnes.
Non.
Ce ne sont pas les personnes qui se sont retrouvées dans des milieux puis qui n'ont pas été prudentes puis qui ont contracté la maladie. C'est le personnel qui a donné cette maladie-là quand c'est arrivé. Puis c'est arrivé quand même à des échelles assez réduites d'après les informations qu'on a, mais c'est arrivé quand même. Donc, le fait d'enfermer de façon très, très sévère les gens, c'est pas ça qui a empêché d'avoir des cas dans les établissements. Puis c'est pas ce qui permet de dire qu'il y en a eu assez peu de cas, parce que ces cas-là, ils ont de toute façon pas été amenés par les personnes.
Ouais. On a comme un 30 secondes, Jean-François, mais je pense qu'il y a quand même des points positifs à tout ça.
Oui.
Hein?
Oui, il y a quelques points positifs quand même, notamment par rapport aux communications. Dans les établissements de santé mentale, il y a toujours un téléphone fixe au mur ou que les gens peuvent utiliser, mais qui ne fonctionne pas toujours très bien, etc. Et là, ce téléphone-là, il est devenu un vecteur de propagation du virus. Alors, on a donné, dans certains établissements, des téléphones cellulaires aux personnes. On leur a permis d'utiliser, dans certains cas, leur propre téléphone cellulaire, ce qui n'existait pas avant. Pour des raisons tout à fait obscures, là, on ne permettait pas aux personnes de garder leur cellulaire. Peut-être que là, on a vu qu'il n'est pas arrivé de tempête à cause de ça. Alors, peut-être que sur le long terme, on va permettre aux gens d'utiliser leur téléphone.
Ouais.
Et deuxième point positif, peut-être une prise de conscience de la société par rapport à ce que c'est qu'un problème de santé mentale.
Ouais. Effectivement, moi aussi, je trouve que c'est le point, en terminant, là, c'est vraiment le point qui a été le positif dans ce début de pandémie-là. Mais merci, Jean-François. C'était fort intéressant de faire le point. On va certainement en reparler, donc la pandémie puis le respect des droits. Merci. En terminant, les coordonnées d'Action Autonomie?
www.actionautonomie.qc.ca et au téléphone 514-525-5060.
Jean-François Plouffe, merci beaucoup. À la prochaine.
Merci beaucoup.
Then again, I thought it through. And again, you'll be out on the edge of some great precipice that would redefine you again and leave me alone to catch up. You said a lot of things I don't understand, and you get a piece of me, but I get an empty hand. And all of the pieces fit, but that big picture's wrong, and it's something only I'll ever know. Guess I'm alone in this one. Nobody ever seems to know the right way. Yes, I'm alone in this one. Nobody ever seems to know the right way. Then I heard you speak in no uncertain terms.
Que vous soyez au boulot, dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie Douce.
On poursuit maintenant au micro avec l'espresso allongé et le sujet entamé plutôt par Pierre, distinguer le vrai du faux sous forme de questionnaire, de quiz que tu fais passer.
Exactement, oui, une quinzaine de questions qui ont été préparées par un organisme de Québec qui s'appelle le Cercle polaire. Ça fait penser à bipolaire un peu. C'est un organisme qui a pour but de soutenir les proches dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien lorsqu'ils côtoient une personne atteinte de maladie mentale. Il y a toutes sortes de services, comme j'ai parlé, des services... Il y en a ligne téléphonique que je vais donner le numéro à la fin.
Oui, oui, à la fin de la, oui. de la chronique.
Alors, on était rendu à la question numéro 9.
Oui.
Toutes des questions de vrai ou faux.
Toutes des questions à 50 $ là, je n'ai eu 8.
T'es pas pire. Là.
Pas pire.
T'es rendu à 400.
Ouais.
OK, alors, question numéro 9. Les personnes atteintes de maladies mentales qui durent longtemps ne peuvent occuper un emploi.
C'est faux, parce qu'on peut occuper un emploi quand...
C'est faux.
Quand on a des problèmes de santé mentale, et au contraire, il faut effectivement occuper un emploi. Je pense que c'est bon pour la santé. Hein.
On nous dit qu'il est possible pour eux de travailler. Ces personnes travaillent, sont bénévoles ou font bénéficier leur communauté de leurs compétences et de leurs aptitudes uniques. Question numéro 10. Les personnes atteintes de maladies mentales sont souvent moins intelligentes, plus pauvres et un peu plus paresseuses que le reste de la population.
En fait, je dirais faux, sauf que ça arrive qu'ils sont déjà plus pauvres. Pauvres, je dirais oui, mais seulement ça, mais les autres, non, effectivement, ils ne sont pas plus paresseux.
Ben, t'as encore raison, c'est faux. On nous dit que la maladie mentale ne fait pas de différence entre le niveau d'intelligence, le statut socio-économique, la démographie, l'éducation, la religion ou le sexe.
Ce sont des mythes, hein, c'est ça, c'est souvent des très gros mythes.
Hein. Oui, personne n'est à l'abri de la maladie mentale. On nous dit tout le monde peut être touché, comme le diabète ou l'asthme, la maladie mentale ne vise pas les gens en fonction de leur qualité ou leurs défauts.
Non.
Question numéro 11. Les préjugés envers les personnes atteintes de maladies mentales ne s'estompent pas au fil des ans?
Mais je dirais que c'est, pour moi, c'est faux. D'après moi, c'est faux.
Oui, bien ici, on nous dit que c'est vrai.
Oui, mais sauf que nous autres, on voit dans Folie Douce que les gens sont de plus en plus ouverts, puis les gens sont de moins en moins. Il y en a encore beaucoup, mais disons que.
Eux autres, en tout cas, eux autres, ils nous disent, le cercle polaire nous dit que ça ne s'estompe pas au fil des ans, les préjugés. Ils nous disent les études suggèrent que les attitudes stigmatisantes publiques envers les personnes aux prises avec un trouble mental grave se sont empirées au cours des dernières décennies. Je pense que le mot-clé, c'est le mot « grave », peut-être.
Ouais, peut-être.
Écoute, on nous dit que les conséquences du stigma sont grandes. Moins d'embauche, moins d'avancement au travail, diminution de l'estime de soi, isolement social et autres.
Ouais.
Ouais. Question numéro 12. La consommation de drogue cause parfois la maladie mentale.
Ça, je dirais que c'est vrai.
Ici, la réponse qu'on nous donne, c'est vrai et faux.
OK.
Donc,
forcément, 25 $.
Forcément, tu as raison. Ici, on nous dit l'alcool et les drogues jouent parfois un rôle dans le développement de certains symptômes ou troubles, mais ne causent pas la maladie. À long terme, la consommation d'alcool et de drogues peut mener à une psychose, qu'on appelle la psychose toxique, qui présente des symptômes similaires à ceux d'une maladie mentale.
Oui, c'est souvent un déclencheur. C'est ça qu'on disait, même les médecins ou plusieurs personnes.
Il y en a qui vont dire que ça déclenche la maladie mentale, mais qu'on était pour la déclencher. Okay. De toute façon, on la possédait dans notre patrimoine génétique,
comme on appelle une question un peu tordue, mais c'est ça. Mais ils peuvent avoir, effectivement, c'est vrai, il faut.
Ouais. Question numéro 13. Les gens qui consomment de la drogue sont plus à risque de développer la schizophrénie.
Ça, oui. Ça, c'est vrai.
Tu dis oui?
Je dirais vrai.
C'est vrai, oui. En effet, les gens qui consomment de la drogue peuvent devancer de 7 ans l'apparition des premiers symptômes. La dépendance aux drogues et à l'alcool est causée par un manque de volonté chez la personne ayant un trouble de santé mentale. 14e question. Les antidépresseurs créent nécessairement une dépendance?
Je dirais que c'est faux, parce que c'est pas nécessairement.
Tu as raison, c'est faux.
Parce qu'il y a de plus en plus de médicaments bien ciblés aujourd'hui. Tu sais, peut-être qu'à l'époque, c'était le cas, mais je pense que c'est peut-être plus le cas. Là.
Ouais. En tout cas, le cercle polaire nous dit il n'existe à ce jour aucune preuve que les antidépresseurs créent une dépendance. Cependant, à l'introduction comme à l'arrêt d'un antidépresseur, certaines personnes rapportent des effets secondaires tels que tremblements, maux de tête, somnolence et autres.
Ouais.
Dernière question. Quitte ou double, est-ce que tu mises ton argent?
Oui. C'est l'argent de Monopoly, on l'a pas dit au début. Là. D'une façon ou d'une autre, on s'appauvrira pas ni un ni l'autre.
Non. Alors, question numéro 15. Tous les enfants qui vivent avec un parent atteint de maladie mentale ont éprouvé des problèmes importants à l'âge adulte.
C'est faux.
Tu dis faux?
Faux.
Tu as raison. Malgré les risques que comporte la situation, beaucoup d'enfants sont résilients, c'est-à-dire endurants, c'est-à-dire ils développent leur capacité à rebondir face au stress d'une manière proactive plutôt que passive. Force, empathie, compassion, tolérance, compréhension et une appréciation de la vie viennent s'inscrire dans leur parcours de vie.
Ça va même des fois former un caractère qui va être plus empathique, justement. Donc, il va devenir un adulte plus, justement, qui va aider les autres. Donc, c'est intéressant.
Alors, je vais...
Un bon score, quand même.
C'est un 14 sur 15.
Pas pire, quand même.
T'es pas pire.
Ah oui.
Alors, le cercle polaire qui offre de l'aide aux proches atteints de maladies mentales, pour les contacter au téléphone dans le 418, c'est au 623-4636. Le site Internet, c'est cerclepolaire.com.
Intéressant, surtout avec notre époque aujourd'hui, avec les fausses nouvelles et les choses vraies. C'est important des fois de faire la distinction entre les deux, le vrai et le faux. Merci beaucoup pour cette chronique, donc cet expresso allongé, Pierre. Et puis, on va sûrement poursuivre éventuellement sur le sujet. C'est fort intéressant de mieux connaître la santé mentale.
Quand on aura tout vu, ce qu'il y avait à voir, que l'on sera revu de nos défaites, de nos victoires, quand on sera plus ému par la beauté de l'histoire, nous saurons alors que les choses invisibles, c'est ce qu'il nous restera quand tout autour se défile. Le cœur, lui, ne meurt pas si tout ne tient qu'à un fil. Ne le perdons pas, ne ratons pas la cible. Des choses invisibles,
des choses invisibles, des choses invisibles, des choses invisibles, des choses invisibles.
Quand on aura tout fait, ce qu'il y avait à faire, qu'on aura comme ce regret, ce qu'on a laissé derrière, quand on sera allé, qu'on aura vu, qu'on sera mis plein la gueule, qu'on sera plus déçu de finir le chemin seul. Quand on aura tout pris, ce qu'il y avait à prendre, quand on aura rempli l'immense trou dans notre ventre, pourtant l'impression de vivre persistera encore. Nous aurons alors, nous aurons alors, que les choses invisibles, ce qu'il nous restera.
Souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. Antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Pierre, on va nommer les chansons qu'on a entendues aujourd'hui à l'émission.
Oui.
Donc, on a entendu plein de bisous.
Oui, de Louis Hoffman avec Milena Leblanc.
Oui, on a pu entendre « Tout passera ».
De Julie Blanche.
Dans la deuxième demi, « Dan Again ».
De Half Moon Run.
Et à l'instant, « Les choses invisibles ».
De Alpha Rococo.
Un de nos groupes préférés dans toute l'histoire de Folie douce. On les passe souvent, je trouve que ça fit très bien avec notre émission. Je remercie notre invité, Michel Audette, qui nous a bien fait connaître finalement tout le côté santé mentale chez les peuples autochtones. Puis parler des peuples autochtones, je suis vraiment content d'avoir eu Mme Audette à l'émission aujourd'hui. À l'Espresso, tu nous as parlé de justement de distinguer le vrai du faux sous forme de questionnaire. hier. C'était intéressant ton sujet. Merci pour ça. Notre collaborateur Jean-François Plouf nous a parlé de pandémie et respect des droits, sa deuxième chronique sur le sujet. Et tu as fait aussi la mise en onde, Pierre. Merci pour tout ça.
Bienvenue, mon cher.
Alors, c'était le menu de Folie Douce. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.